Merci Thomas Cluzel. On vous retrouve à midi et demi pour votre journal, puisque vous êtes désormais le partenaire de cette grande table, responsable de l'information, la grande table qui reprend comme lors de sa précédente saison en trois temps. Info, ce sera vous, Thomas Cluzel, culture et idées, ici donc et maintenant avec une nouvelle équipe. Bienvenue à Maya Neskovic, à Oriane Delacroix, à Laura Dutech, à Jordan Joseph et Jeanne Copet, avec Henri Leblanc et Perry Legras, fidèles au poste. La grande table, c'est jusqu'à 13h30. Bonjour à tous et bienvenue. À partir de 12h55, 2008-2018, 10 ans après, a-t-on tiré les leçons de la crise financière du côté de la discipline? La parole des économistes a-t-elle gagné en pluralisme et en humilité? Place au doute, peut-être, aujourd'hui avec notre invité Patrick Artus de chez Natixis, invité de cette première grande table des idées. Mais d'abord, après une première sélection réalisée par les critiques de la grande table d'été vendredi, place aux grandes voix de cette rentrée littéraire. Un roman en mille feuilles pour une romancière en trompe-l'œil. Elle nous offre un monde à portée de main chez Vertical. Maëlys de Kerangal est avec nous jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Après Corniche Kennedy et Naissance d'un pont, prix Médicis, elle nous a laissé il y a 4 ans le cœur lourd.
Je ne sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort.
Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça, vous le savez.
Un cœur lourd avec Réparer les vivants, adapté au cinéma et mise en scène, auréolé du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Elle revient aujourd'hui avec Un monde à portée de main, un hymne à la vie, à l'immensité du monde, un roman qui invite à faire sentir, voire ressentir le temps qui passe, plutôt qu'à essayer de le retenir. Un récit où tout coexiste, l'homme et le minéral. Moscou, Bruxelles, Paris, Turin, Lascaux, on y suit la trace d'une héroïne d'aujourd'hui, Paula Karst. On y apprend un geste, celui du peintre, et une spécialité. La peinture en décor, c'est-à-dire le trompe-l'œil, la copie, le fac-similé. Maëlys de Kerangal, bonjour.
Bonjour.
Et vous, est-ce que vous êtes une faussaire?
Oui, sûrement. Il y a une part de faussaire dans le travail du faussaire, dans le travail de l'écrivain, du romancier en tout cas, parce qu'il s'agit de recréer quand même des mondes. Il y a une dimension de recréation. Et moi, j'aime assez cette idée que, justement, par l'idée de la pratique de la copie ou du faux, on accède à des formes de vie, à des formes de vérité auxquelles on n'a pas si facilement accès.
On peut dire que le trompe-l'œil, c'est un peu comme la fiction, c'est cet art de l'illusion de voir au-delà. Ouais. Et d'ailleurs, vous l'écrivez, vous jouez avec ce parallèle tout au long de ce roman, l'idée que le trompe-l'œil est bien autre chose qu'un exercice technique, bien autre chose qu'une simple expérience optique. C'est une aventure sensible qui vient agiter la pensée, interroger la nature de l'illusion et peut-être même l'essence de la peinture. Quand vous écrivez cela, à propos de la peinture, à propos de la peinture en décor, on a l'impression que vous parlez tout simplement de l'écriture, de votre boulot à vous.
Oui, c'est vrai que ce roman, à travers justement la trajectoire de cette Paula, de l'héroïne d'un monde à portée de main, j'avais aussi envie de faire venir des questions que moi je me pose quand j'écris un roman. Qu'est-ce que c'est que cette forme de faux justement que l'on élabore pendant parfois des années? Quelle est la teneur du rapport au réel? Est-ce qu'il faut justement être millimétriste dans le détail? Est-ce que au contraire quelles actions porte l'écriture, c'est-à-dire la récolte des matériaux? Comment est-ce qu'ils après ils peuvent devenir des sources? Est-ce qu'ils peuvent dépasser justement leur état de simples matériaux pour devenir finalement des sources poétiques, voire une inspiration poétique? Est-ce qu'ils nous servent pas finalement à imaginer, à débrider totalement notre imagination? Enfin voilà, c'est un peu toutes ces questions qui sont traversées par ce roman.
Mmh. Et l'écriture, comme cette peinture en décor, ce trompe-l'œil, est un art de la mise en scène, est un art du détail. On retrouve ici ce qui fait votre patte à vous, cette précision dans les mots. Il y a une question qui se pose, c'est est-ce que pour vous, ce livre est parti plutôt d'un mot, justement, et vous les aimez, vous les précisez, d'une image, d'un geste? Est-ce que vous vous souvenez du point de départ?
Je crois qu'il y avait, il y a eu d'abord le point de départ qui était peut-être simplement le nom de Lasco. Hein. Au départ, j'avais vraiment le désir d'écrire un roman qui situerait à un moment ce temps de la préhistoire, c'est-à-dire un temps d'avant l'écriture, hein, où finalement la littérature se donne sous forme de récits oraux, où il y a un temps d'oralité et aussi le monde, voilà, où tout naît, où tout advient, enfin notamment la question de la naissance de l'art. Donc il y avait vraiment Lasco comme une espèce d'antre à la fois très puissante symboliquement et aussi avec lequel notre pays a une histoire et avec laquelle moi j'avais aussi un peu une histoire, cette grotte là et puis aussi le nom de Paula Karst qui a beaucoup magnétisé le livre, alors là sur un mode beaucoup plus de narratif. C'est vrai que je trouvais que ces trois syllabes avaient une espèce d'énergie un peu euphonique comme ça, et ça rythmait immédiatement l'écriture. L'écriture commence par son nom, donc je dirais voilà, entre Lasco et Paula Karst, ce sont des noms, en tout cas un toponyme et des anthroponymes qui ont comme ça lancé le roman.
Entrons dans la grotte en compagnie de l'artiste espagnol Miquel Barcello. C'est pas la grotte de Lasco, c'est celle de Chauvet, grâce au très beau documentaire de Christian Tran, Les génies de la grotte Chauvet.
Mon Dieu, quelle merveille! C'est incroyable! C'est comme les quatre âges de la vie, non? On dirait une vieille jument, une jument, un jeune poulain.
Oui, non? C'est vrai.
Regarde, par ici, il y a toute une danse de lignes. Et tu vois comment il va d'une noire totale...
Oui, au gris, au à plus rien.
Oui. Et ces lions-là, c'est incroyable.
C'est d'une beauté, ça.
Hein? Avec ses... qui renifle. Oui. Tu vois,
elle
regarde...
Et elle regarde, elle grogne.
Oui, oui, elle grogne. C'est une belle expression de visage. Oui. Regarde les yeux, comme chacun est complètement différent. Et c'est le même artiste, c'est évident.
Pour les crinières, tu vois quoi comme outil?
Ah oui, je vois le charbon et ensuite, les doigts, les pouces comme
voilà,
ça.
Oui.
Ce qui me fascine le plus, bien sûr, il y a ces rythmes, mais c'est la différence de morphologie de chaque cheval, de chaque lion. C'est ça qui est étonnant, très étonnant. Chez Rembrandt, tu trouves ça. Quand tu trouves un groupe de personnes assises dans une table, tu vois, cette morphologie, chacun porte sur son dos son histoire. C'est exactement ça avec ces animaux de Chauvet. Pour moi, c'est une sorte d'animalité, c'est une forme d'humanisme.
Voilà, on ressent la fascination de cet artiste devant ces traces du temps.
Oui,
aussi.
Je sais que Miquel Barcello, il a beaucoup visité tous les petits sites préhistoriques, souvent ornés, qui se trouvent dans toute la vallée de la Vézère. Et je trouve que c'est assez merveilux de l'entendre s'éblouir. C'est-à-dire, vous voyez, moi, j'avais aussi comme désir dans ce livre de reproduire enfin une forme d'éblouissement. C'est-à-dire que cette héroïne, elle est tout le temps un peu dans une forme d'éblouissement, assez vertigineux. Et la fin du livre, justement, on n'est pas dans le fac-similé, on est dans un petit abri qui s'appelle l'abri du poisson à Laugerie Basse, qui est au fond d'un vallon qui s'appelle le vallon de Gorge d'Enfer. Et pour moi, voilà, elle est devant le temps et vraiment devant ce qui pourrait être voilà une des expressions de l'art. Mais vous voyez, quand il dit la morphologie des animaux, c'est ça qui le fascine, c'est qu'on les repère, on les distingue. Il y a déjà un enjeu de précision, il y a déjà une éducation du regard dans ces fresques, dans toute cette peinture pariétale. C'est assez bouleversant et c'est très émouvant.
Parce que vous avez reçu, Maëlys de Kéranga, l'autorisation exceptionnelle, une autorisation presque de président, de pouvoir entrer dans une de ces grottes.
Non, moi je ne l'ai pas. Chauvet et Lascaux, j'ai pas demandé d'autorisation. Aussi parce que je voulais rencontrer des gens qui, eux, possiblement travailler plutôt sur les facsimilés. Alors je trouvais que c'était compliqué de pouvoir moi avoir accès à tout, mais de fait certains auteurs du facsimilé, alors là pour le coup de Lascaux, ont travaillé, ont eu le droit de descendre dans la cavité de Lascaux. Mais en revanche, j'ai eu accès à ces sites dont je vous parle, parce qu'en fait il y a plein de sites plus secrets, moins visités, et là pour le coup il faut qu'on vous y emmène. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir y être conduite, notamment l'abri du poisson, mais aussi d'autres sites. Et puis j'ai aussi visité beaucoup d'autres grottes, et notamment des grottes ornées que l'on peut encore voir. Par exemple, la grotte de Fond de Gaume, que j'ai été voir deux, trois fois, qui est une des plus belles grottes ornées qui reste, qui est ouverte au public.
Alors, ces artistes qui doivent aujourd'hui réparer les dommages du temps, ou qui doivent aujourd'hui ou peuvent aujourd'hui reproduire certaines œuvres, comme celles présentes sur les murs des grottes à Lascaux ou à Chauvet, comme on ne peut plus y entrer aujourd'hui parce qu'on risque d'abîmer tout ce qui se joue là-bas, et ça l'a déjà été par les nombreuses visites qui ont pu déjà avoir lieu. Est-ce que ces artistes, ils se perçoivent comme de vrais peintres, ou est-ce que c'est quand même un genre qui reste mineur, celui de copiste aujourd'hui, parce que c'est pas la même subjectivité qui va s'exprimer à travers ça?
Mais je pense que ils se vivent comme des peintres. Après, la question de l'art, elle est pas directement posée là dans moi, ceux avec lesquels j'ai pu échanger ce qui les étonnait et ce qui les bouleversait, c'est d'être aussi dans les conditions des peintres de la préhistoire. Ce que j'écris dans le livre, c'est par exemple dans le facsimilé, dans les ateliers à Montignac, on est quasiment dans des conditions, j'ai l'air, thermiques et puis aussi visuelles, un peu qui pourraient être celles d'une cavité. Ensuite, on travaille de manière si précise qu'il faut parfois réincorporer des gestes, réapprendre des gestes, et copier, ça n'est pas justement seulement travailler au micro-point, c'est aussi se remettre dans un geste qui est immémorial. Et puis certains justement usent des outils comparables à ceux dont usaient les peintres de la préhistoire. Donc il y a une espèce de confusion. J'avais à la fois le sentiment qu'ils se vivaient comme des peintres, et d'ailleurs on peut aussi considérer que ces facsimilés sont des œuvres. Et moi je considère par exemple que leur beauté et l'émotion qu'ils peuvent procurer leur donnerait un statut d'œuvre, d'autant que pour la grotte de Lascaux, il y a aussi l'idée que le facsimilé, il est presque plus vrai d'une certaine manière que la grotte qui existe aujourd'hui, en tout cas qui a été dénaturée à partir de 1940, c'est-à-dire on a créé des saillies dans les parois pour faire passer des fils électriques, où on a bétonné le sol, tandis que et on a surtout excavé totalement le conduit, le cône qui avait permis aux inventeurs de quatre jeunes garçons de rentrer à l'intérieur. Or, le facsimilé qu'on peut admirer aujourd'hui, d'une certaine manière, il restitue ce cône d'ébouli. Finalement, il rend sa vraie nature à un lieu qui a été dénaturé. Vous
voyez, c'est l'art de l'illusion.
C'est l'art de l'illusion, oui.
Exactement.
C'est assez intéressant, ça, d'ailleurs.
De Véronèse au street art, le trompe-l'œil n'a pas un mètre précis, mais il a une école, et elle se trouve aujourd'hui à Bruxelles, cet institut de peinture Van der Kellen qui existe vraiment, et dont vous vous êtes largement inspiré pour ce texte, pour ce roman, Un monde à portée de main, et qui enseigne là-bas les techniques traditionnelles de la peinture décorative. Vous décrivez cet endroit presque brique par brique, l'obscurité, les odeurs de temple et de chantier, ce sont vos mots, un air chargé de poussière en suspension, marbre, boiserie, colonnes de pierre, les stucs, toute la matière est là. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait, le moment peut-être où la directrice de cet institut donne aux nouveaux élèves, dont Paula, fraîchement arrivée, les quelques consignes pour tenter d'aborder leur métier?
Pensez à peindre avec vos glaciers intérieurs, avec vos propres volcans, avec vos sous-bois et vos déserts, vos villas à l'abandon, avec vos hauts, vos très hauts plateaux. On distingue Paula dans l'assistance, les yeux luisants, alors que ceux-ci au même moment s'en trouvent en elle, l'idée que le trompe-l'œil est bien autre chose qu'une expérience technique, autre chose qu'une simple expérience optique, c'est une aventure sensible qui vient agiter la pensée. Dans son cerveau pétulant mais mal débrouillé, l'enseignement qu'elle reçoit se résorbe en un principe élémentaire qu'elle s'approprie lentement. Le trompe-l'œil doit faire voir alors même qu'il occulte, et cela implique deux moments distincts et successifs, un temps où l'œil se trompe, un temps où l'œil se détrompe. Si le dévoilement de l'impostura n'a pas lieu, la dame au col roulé noir se ferme, hausse les épaules, abat sur l'assistance son regard froid d'oiseau solitaire, cela signifie que l'on se trouve face à une idiotie, face à un procédé, à une supercherie. Alors la virtuosité du peintre, l'intelligence de son regard, la beauté de son tableau, tout cela ne peut être reconnu, tout cela demeure hors d'atteinte. Et voyez-vous, articule-t-elle, cela tue le plaisir, cela casse le travail. Et c'était là ce qu'elle pouvait dire de pire, une condamnation sans appel. Elle faisait grincer les sifflantes et expulsait avec dégoût ces mots, casser le travail.
Casser le travail, extrait d'Un monde à portée de main, votre nouveau roman Maëlys de Kerangal, paru chez Vertical. Comme le peintre, pour être libre, l'écrivain, il doit connaître aussi ses fondamentaux, les fondamentaux de son art, cette langue commune. Une fois qu'il a appris cette langue commune, on peut imaginer qu'il va, comme le peintre, penser à écrire non plus avec toute cette documentation, ce langage qu'il a appris, cette documentation qu'il a accumulée, mais penser à écrire avec ses glaciers intérieurs, ses propres volcans, ses sous-bois, ses déserts, ses villas à l'abandon, ses hauts et ses très hauts plateaux. C'est comme ça que vous écrivez, vous ?
Oui. Oui, alors pour moi, j'aime d'abord que les romans, les livres que je peux écrire m'amènent à apprendre d'autres langues. Hein. Je parle là de ces lexiques, de ces langages techniques, et j'aime que les livres, qui sont quand même des épopées, des longues investigations, des longs travaux, m'apportent toute cette richesse. Mais c'est vrai qu'une fois que ces mots sont là, incorporés, mais souvent encore assez mystérieux, voilà. Et il faut, je pense que ce qui est important, c'est justement de regarder vers soi et de faire affleurer d'une certaine manière des formes d'intériorité, bien sûr.
Votre mot préféré de cette langue, toute nouvelle langue que vous avez dû ou pu apprendre, moi j'ai beaucoup aimé Anamorphose.
Ah oui, ça c'est Anamorphose, magnifique. Mmh. Anamorphose d'ailleurs qui pourrait être un peu aussi ce que vit cette héroïne, puisqu'en fait c'est une fille que l'on connaît entre 20 et 27 ans et l'on en suit finalement la métamorphose, le devenir, et finalement elle se présente un peu comme une anamorphose elle-même, un strabisme, la réalité lui apparaît un peu déformée, elle a ce regard étrange. Oui, Anamorphose, c'est magnifique. J'aimais aussi par exemple, dans toutes ces techniques de peinture, on dit les glacis, le moutonnement, les enlever. Vous voyez, je trouve que tous ces mots qui font d'ailleurs référence à des gestes et à du faire, c'est-à-dire à des actions, ont toujours une forme de beauté très concrète, et je trouve qu'il y a une poésie qui vient de ce prosaïsme. Et c'est cette poésie-là que moi j'essaye de mobiliser dans mon travail.
Une sorte de gastronomie du langage aussi à travers cela. Un monde à portée de main, c'est aussi un roman d'apprentissage, Maëlys de Kerangal. Vous aimeriez, vous, avoir encore 20 ans, cet âge, celui de Paula, votre héroïne, n'être bonne à rien et tout à coup trouver votre voie, celle par laquelle on se révèle un peu à soi-même?
Ah oui, je pense que c'est une position extrêmement enviable, hein, d'être sur un seuil, d'ailleurs comme ils le sont à un moment donné, hein, elle et Jonas, qui d'ailleurs ressemble un peu à Rembrandt. Ça me faisait sourire tout à l'heure quand j'entendais Barcello qui évoquait Rembrandt. Ouais, être sur un seuil pour apprendre. Oui, pour moi, je voudrais justement que ce mouvement de la formation ne cesse en moi, d'une certaine manière. Me sentir toujours en devenir, en formation, en apprentissage. J'aime mieux le terme de formation, parce qu'il y a évidemment l'idée de la forme, hein, qui apparaît, qui pour moi est essentielle. J'aime assez l'idée, et ça regarde pour moi aussi vers la formation des mondes. C'est vrai que c'est un livre qui essaye de mobiliser pas mal de choses autour du minéral, du végétal, et puis cette écaille de tortue. Il y a beaucoup d'animaux aussi qui traversent ce livre. Et le monde se forme autour de Paula à mesure qu'elle forme son regard et se forme elle-même. Et je trouve que, ouais, j'aimerais toujours avoir l'exigence de rester dans cette disposition.
Vous avez à nouveau 20 ans, Mélise de Kerangal, et à midi 22 sur France Culture, vous glissez dans votre Walkman une cassette de Bowie, de Patti Smith, des Stones, ou peut-être de... De Kerangal, notre invitée jusqu'à midi et demi. Je vous laisse des annoncés.
C'était Debbie Harry, One Way, dans l'album Parallel Line. Donc c'est Blondie, enfin c'est la voix de Debbie Harry, mais le groupe c'est Blondie.
Année de la chanson
1978.
Voilà, elle sait tout. Vous êtes un jukebox à vous toute seule. Et cette voix, celle de Debbie Harry, elle ressurgit aussi dans l'un de vos romans, dans Les Rapides, ouais, qui mettaient en scène Kate Bush et Debbie Harry, trois copines au Havre. Un peu de vous aussi dans tout ça. Cet esprit punk, pop, rock, est-ce qu'il existe encore pour vous aujourd'hui, Mélise de Kerangal? Est-ce qu'il ne se serait pas déplacé vers la littérature?
Il existe encore, enfin, c'est-à-dire que je pense que s'il se déplaçait vers la littérature, ça demanderait beaucoup d'agitation dans la langue, parce que comme on l'entend là, il y a une énergie, il y a un rythme, il y a aussi quelque chose d'assez de très concret, de très binaire, one way, vous voyez, ce qu'elle chante, toute cette musique punk rock, c'est une musique très scandée, qui est à la fois, je trouve, rudimentaire et très joyeuse, et pour moi, j'aime bien de temps en temps importer ce type de rythme et ce type d'énergie dans des phrases, par exemple, donc le déplacer par là.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
La magie des lieux, on va la retrouver quelques instants, celle d'un temple du cinéma qui existe aussi dans ce roman que vous publiez en cette rentrée, Mélise de Kerangal, Un monde à portée de main chez Vertical, Cinecittà, l'atelier des cinéastes comme Fellini.
Le lieu où tout ça naît, ce lieu de prédilection, c'est Cinecittà. C'est là que vous passez le plus clair de votre vie, à Cinecittà.
Oui, mais ça c'est une autre phase. Tous les pas, plus ou moins magiques, toutes les attentes ont déjà été franchies. Cinecittà, c'est l'endroit où se fait la matérialisation, où l'imagination et l'imaginaire commencent à se coaguler, à se matérialiser. Donc, Cinecittà est un lieu extraordinairement fascinant. C'est le laboratoire où toute cette atmosphère psychologique particulière est soudainement mise en condition de donner un résultat précis. Ça devient donc un atelier, un laboratoire.
Cinecittà à la belle époque, celle des cinéastes avant d'être un parc d'attractions. Mélisse de Kerangal, la fabrique des rêves et des illusions, c'est le point commun de tous ces lieux que vous explorez à travers ce livre. Il faut qu'on évoque aussi la question du temps qui est très importante, ce passé qui n'est pas cet arrière-monde comme vous l'écrivez, ce monde situé à l'arrière du temps que Paula pense rejoindre au début de sa formation. Vous en faites de ce passé une matière vivante. Ça a quelque chose même d'assez vertigineux, voire d'angoissant de s'inscrire dans cette grande ligne du temps que vous nous décrivez, de n'être qu'une petite poussière à travers tout cela. Il y a un temps pour tout, vous pensez aujourd'hui, un temps qui rassemble les autres temps.
Alors, la question que je me posais, c'était précisément, est-ce que dans un roman, on pourrait tout rassembler? Est-ce que le roman pourrait rassembler le temps, en fait, et rassembler plusieurs temporalités? Celle d'une fille en pleine jeunesse, mais aussi celle de ses souvenirs, celle des miens, hein, vous voyez, de moi, de ma propre jeunesse et peut-être ma propre enfance, plutôt dans ce livre. Et puis aussi, ce qui m'intéressait davantage, c'était les temps de l'histoire. Et c'est vrai que, par exemple, Cinecittà, c'est un lieu où on a affaire à la fiction et à l'histoire, et à la fiction et à la politique, à la fiction et à la, et notamment aux grandes, voilà, à la guerre et au désastre du XXe siècle, par exemple, qui sont visibles dans ces grands temples du cinéma, qui ont aussi été des endroits où se sont forgées les grandes propagandes. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que le livre démarre aussi par cette espèce de tourbillon, cette espèce de descente, c'était effectivement de proposer une descente dans la matière du temps, et c'était pour moi aussi un premier moment pour aborder la question vraiment de la mémoire, mais d'une mémoire qui est inactuelle. Vous voyez, on est dans une forme d'inactualité dans ce livre, à la fois contemporain, j'espère, et inactuel. C'est-à-dire, à un moment, justement, le fait de travailler, le fait de peindre un ciel ou de travailler sur une écaille de tortue fait revenir des souvenirs. Et c'est et ses souvenirs l'embarquent encore plus loin, notamment quand elle visite une carrière de pierre, elle remonte à la formation du monde. Et voilà, donc il y a une espèce de stratification temporelle tout au long du livre. Et ça, pour moi, c'est le grand geste du livre, c'est d'essayer justement de rassembler un temps qui pourrait, où tout pourrait coexister dans un livre.
Et le grand geste peut-être aussi de la littérature, un stock d'images et de sensations. Nos vies, sous votre plume, Mélisse de Kerangal, sont des mille feuilles de souvenirs, de choses vues ou vécues. Merci beaucoup
d'être
venue ouvrir cette troisième saison de La Grande Table Culture avec nous, Mélisse de Kerangal. Voilà, je redis simplement le titre de votre livre, Un monde à portée de main, chez Vertical. Merci.
Je vous remercie.